Bienvenue sur Ils l'ont fait, le nouveau podcast de Digiformag. Je m'appelle Pascal et chaque mois, j'ouvre notre micro à un maker du monde de la formation professionnelle. Il ou elle nous dévoilera l'une de ses réussites en 20 minutes chrono. Une belle manière de vous informer, mais surtout de vous inspirer. Bonne écoute! Eh bien, c'est parti. Eh bien, bienvenue Gwenaëlle sur notre 10e épisode de Ils l'ont fait. Je suis ravie de te recevoir ce matin. Alors, on est à distance. On se connaît depuis maintenant un an parce que tu es membre du Copil de Wave Connect. Tu es client Digiforma. Et donc, tu as voulu tester l'exercice du podcast. Donc, tu connais le format, tu connais le principe. Je te pose une question la même pour tout le monde et je te laisse répondre de manière rapide et claire. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Gwenaëlle, ce que tu as fait et réussi ces derniers mois ?
Merci Pascal, je suis ravi d'être là. Ce que j'ai fait ces derniers mois et dont je suis plutôt content là, c'est d'avoir, c'était un projet que j'avais depuis un bon moment, monter une formation en full distanciel, vraiment une formation de formateur, c'est-à-dire avec une partie e-learning et des parties synchrones en classe virtuelle et de réussir à mettre de la pédagogie, vraiment ça me tenait à cœur, de la pédagogie vraiment active sur une formation distancielle. Et c'était un assez gros travail, en tout cas pour moi qui suis tout seul, juste indépendant. Et j'en suis plutôt content. Maintenant, il ne reste plus qu'à la promouvoir, mais j'ai pu la tester une fois et je suis plutôt content.
Alors, c'est pas mal parce que ça va faire un petit peu la suite du podcast qu'on a fait avec Sylvain sur justement les formations en e-learning. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé ce projet ? Combien de temps ça t'a pris et quelles ont été un peu les étapes clés ?
Quand je l'ai commencé, je pense, enfin, l'idée a germé il y a, on est en mars, donc il y a un an à peu près. Et j'ai eu l'opportunité, il y a une personne que je connais, avec qui je travaille, qui a déjà été apprenante avec moi, et qui m'avait demandé une formation sur... Elle est déjà formatrice, elle m'avait demandé une formation pour digitaliser un peu ses formations et surtout faire en distanciel. Donc du coup, déjà là, j'avais déjà fait une première, je dirais, une version entre guillemets, mais un peu de formation en ligne pour elle, pour une personne, en distanciel. Donc déjà, j'avais posé les bases là, ça m'a permis d'appréhender un peu le LMS que j'utilise, Digiforma, et puis différents outils numériques. Et puis pour l'instant, après, j'avais pas trop de temps, donc c'était resté un peu en stand-by, mais ça maturait dans le cerveau, en arrière-plan. Et puis la deuxième étape, ça a été juin l'année dernière, j'ai une personne qui m'appelle, qui est de Normandie, qui a entendu parler de moi par un apprenant qui a vécu une formation en présentiel ici à Brest avec moi, et qui voulait faire une formation de formateur. Et ça fait depuis 2015 que je forme des formateurs en présentiel, mais en fait, en distanciel, je ne l'avais jamais transposé complètement, même si c'était un projet. Donc je m'y suis vraiment attelé, et je dirais que là, le temps que l'idée germe, le timing, le temps de faire tout ça, on devait commencer là en janvier, ce qu'on a fait. Et du coup, sur la fin d'année et début d'année, là, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je vais pas dire un mois complet, c'est pas parce que c'est un peu haché, mais j'ai passé beaucoup de temps en fait à travailler sur la création de contenu, transposer un peu ce que je peux faire ou l'adapter pour le faire en distanciel. Donc ça m'a pris un certain temps, mais la dernière ligne droite, ça a été en décembre et janvier pour lancer la formation. Et la formation a eu lieu sur janvier-février. Donc tu vois, de l'idée il y a un an à une première version à peu près, mais pas complètement aboutie. Et là, une version, je dirais, plus aboutie, même si je vois encore des améliorations possibles, comme à chaque fois. Mais cette fois-ci, voilà, on va dire un an globalement.
Et ça a été quoi ? Alors, c'est vrai qu'on en parle pas mal dans la communauté de ces passages du présentiel au distanciel. Toi, tu n'as pas de formation d'ingénieur pédagogique, mais tu la connais bien, cette formation, tu l'as faite pendant longtemps. Ça a été quoi ton premier souhait en la passant à distance ? Qu'est-ce que tu t'es dit, surtout, enfin, l'écueil à éviter et qu'est-ce que tu avais envie d'y mettre dedans ?
Eh bien, en fait, j'ai en présentiel, j'ai une pédagogie très active. Je suis vraiment... dans la lignée de mettre les apprenants, comment les rendre acteurs de leur formation et acteurs de leurs apprentissages, c'est-à-dire que eux aillent chercher ce qui est à apprendre. Et le défi pour moi, c'était en fait en distanciel de réussir à maintenir, à garder ça, c'est-à-dire même en asynchrone, c'est-à-dire même quand l'apprenant est seul, que ce soit pas du descendant.
T'as fait du coup pour réussir à garder cette dynamique ?
Ben en fait, dans toutes mes créations de contenu, j'ai séquencé en fait toute ma formation de manière à démarrer à chaque fois par des activités seules ou en social learning aussi. Alors là, la personne était seule, mais la dernière fois que je l'ai faite, mais l'idée, elle est quand même construite pour pouvoir se faire seule ou à plusieurs. Et donc, pour faire travailler les apprenants seuls d'abord, ensuite des apports de contenu, ensuite à nouveau du travail, de la réactivation de ce qu'ils ont pu voir en ligne, et après des parties synchrones avec moi où on peut justement débriefer des travaux qu'ils ont fait sans moi et approfondir, plus mettre en pratique. Le défi, c'était aussi de faire des mises en situation en distanciel, c'est-à-dire que ces personnes-là, les stagiaires, puissent construire une formation et l'animer, en tout cas en partie, en distanciel aussi. Ça, c'est la finalité. Et l'évaluation finale.
Alors, il y a toujours la question de la durée de ces formations à distance. Toi, ta formation en présentiel, tu fais le module de 3 jours, c'est ça ? Je ne sais plus quelle est la durée de ta formation en présentiel à la base.
À la base, effectivement, c'est la difficulté, parce qu'à la base, telle que je l'ai faite, et imaginez, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a été présentée, que je l'ai mise, j'avais mis 21 heures quoi, de formation. Et puis en échangeant avec la personne qui l'a suivi, la formation, elle m'a dit « Non, mais moi, j'ai passé vraiment du temps à travailler là sur les… » C'est-à-dire qu'en présentiel, je peux timer le temps et je leur dis « Cet exercice, cette étude de cas, je vous donne une heure pour le faire. » Là, en fait, comme c'est en asynchrone, les personnes peuvent être perfectionnistes et au lieu de passer une heure, peuvent y passer 3 heures. Donc, c'est un peu la difficulté. Mais je me suis rendu compte que cette formation était plus proche de 30-35 heures de travail au total, finalement, que 21 heures.
Même à distance, t'as pas cherché à réduire la temporalité. Et effectivement, dans les 35 heures, tu mets le temps de pratique de tes apprenants.
En fait, voilà, ce que j'ai réduit, c'est le temps avec moi, en synchrone. Mais en fait, la formation en tant que telle, le travail des apprenants, effectivement, il est plus long. Et pour moi, c'est l'avantage du distanciel, je trouve, c'est d'offrir une formation qui, au lieu d'être condensée sur 3 jours, et peu importe qu'on soit en demi-journée, journée, mais présentiel ou même en synchrone, qui soit vraiment actée, c'est d'étirer le temps de la formation. C'est-à-dire que là, chaque stagiaire peut choisir de passer plus ou moins de temps, mais à un moment donné, il y a quand même un minimum à passer. De toute manière, ça demande du temps de travail. Et celui-là, en distanciel, il est vraiment comptabilisé dans la formation. Alors qu'en fait, en présentiel, on a tendance à même si je fais par exemple des formations, moi, des fois de 2 jours plus 2 jours, on dit la formation, elle dure, 4 fois 7, 28, elle dure 28 heures. Or, on ne comptabilise pas dans ces formations présentielles le temps de travail intercession si on leur donne quelque chose à faire en intercession. Et dans le distanciel, on peut valoriser ça. Et ça, pour moi, c'est important. Et ça permet aussi d'étirer le temps d'apprentissage pour l'apprenant. Donc, moi, je trouve que c'est une force. Et c'était un peu c'est pour ça que c'est un peu ma fierté dans le sens où je l'ai fait. Et j'ai envie de déployer sur cette formation et sur d'autres parce que on peut réussir à faire, je pense, du distanciel vraiment de qualité, qualitatif, en séquençant correctement toutes ces formations, en allongeant le temps de formation. Ça, pour moi, c'est le gros plus du distanciel. S'il est bien pensé, on peut réussir à allonger le temps de formation sans forcément que ça prenne beaucoup de temps condensé, concentré. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça laisse le temps de maturer, en tout cas, aux stagiaires. Et ça, pour moi, c'est très pédagogique.
Après, c'est vrai que c'est une thématique où forcément, il y a beaucoup de mise en pratique. Donc, il faut que tu aies des apprenants qui aient conscience de ça et qu'ils s'appliquent à le faire aussi quand tu n'es pas à côté d'eux, en face d'eux. Donc, tu verras peut-être que dans la pratique, ça ne sera pas forcément toujours évident. Est-ce que tu veux l'appliquer à d'autres formations que tu fais aujourd'hui ? Donc, tu as d'autres thématiques de formation aussi. Est-ce que finalement, tu te dis, allez, je vais me lancer sur d'autres sujets ?
Il y a une des formations que je fais, c'est vrai que c'est un peu, j'ai deux spécialités, c'est formation de formateur pédagogie et l'autre qui est communication bienveillante, management bienveillant, tout ce qui tourne autour, je dirais, de la relation bienveillante, en tout cas de la relation aux autres. et ma formation en communication bienveillante, ça y est, j'ai des personnes et donc maintenant il ne me reste plus qu'à affiner. Mais il y a une session qui va démarrer en septembre. Il me reste à affiner un peu certains points, mais j'ai des dates de prévues. Elle va se faire en distanciel. Ça va être la première et ça, c'est super.
Est-ce que toi, dans tes formats, donc tu es client Digiformat, tu as le LMS, mais est-ce que tu as imaginé dans tes séquences des formats un peu différents? J'imagine que tu as de la vidéo, tu as du texte, tu dois avoir des quiz. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu intégrer dans tes séquences?
En fait, j'ai mis de la vidéo, je pense que j'en mettrai encore davantage. J'ai mis du texte, oui, des quiz, oui, et en fait, des jeux, des exercices, on va dire, à partir, par exemple, j'utilise worldworld.net, par exemple, parce que c'est un peu ludique, ça fait des petits jeux, et pas que sous forme de quiz. J'utilise Ooclap, qui permet aussi d'avoir différents types de questions, de formats. Là, je suis en train de me former à Geniali pour pouvoir intégrer, en fait, justement, sur le LMS, des Geniali et varier un peu les outils et l'approche. Et puis, en fait, j'utilise aussi beaucoup comment le drive Google et que j'intègre en fait dans le LMS, c'est-à-dire le drive, quand je dis le drive, c'est des documents en fait, des documents ouais. Google qui du coup, pour le coup, vont être collaboratifs, c'est-à-dire où les personnes vont co-construire des choses et après on peut les débriefer en temps synchrone.
Il y avait un point qu'on voulait aborder pendant ce podcast aussi, c'était intéressant de montrer comme toi tu es un OF indépendant. Ça fait 10 ans que tu fais ce métier, que tu es tout seul. Et là, tu es en train de démystifier un peu aussi le fait que même avec peu de ressources, quand on connaît bien son thème de formation, le passer en e-learning, c'est pas totalement infaisable. Et que finalement, ça ne demande pas d'avoir des ressources démesurées pour le faire. Mais effectivement, sans doute que toi, tu connais bien ton thème et que tu l'as déjà bien pratiqué en présentiel, que ça a dû t'aider aussi à passer le cap. Mais comme quoi, oui, c'est faisable.
Complètement. Enfin, pour moi, alors ça a été un travail, je dirais, d'appropriation des outils numériques pendant un bon moment. C'est-à-dire, en fait, depuis le confinement, j'ai envie de dire, finalement, je navigue d'outils numériques en outils numériques pour les tester. Après, à un moment donné, je me suis confronté, et encore aujourd'hui d'ailleurs, à cette multitude de choix sur les outils numériques, et puis ceux qui parfois sont peuvent paraître, on va dire, je vais utiliser ce mot-là, mais un peu à la mode, c'est-à-dire on les voit beaucoup, ou on en parle beaucoup sur les réseaux ou entre formateurs. Et en fait, à un moment donné, c'est de me dire quels outils sont, sur lesquels je vais me sentir à l'aise à utiliser, qui moi en tout cas me paraissent fluides, pertinents surtout pédagogiquement, que je peux utiliser. Donc quand je dis pertinent, moi pour moi c'est surtout que je peux rendre le plus en pédagogie active, c'est-à-dire pour moi l'intérêt des outils numériques c'est surtout pas qu'ils arrivent qu'à la fin, c'est-à-dire après une séquence descendante, hop on te fait un quiz, c'était surtout comment je peux faire pour l'utiliser en amont. Et comment je peux faire en distanciel avec ces outils pour maintenir cette pédagogie active et collaborative quand on a un groupe. Et ça, je l'ai vécu pendant le confinement. J'ai eu beaucoup de groupes, j'avais des groupes de 20 personnes. Et ce que tu disais, en fait, je l'ai déjà vécu et ça fonctionnait bien. C'est-à-dire donner un travail à faire à des apprenants, à un moment donné, si l'étude de cas ou autre est très bien construite, le travail est fourni. Après, qu'il soit à la hauteur d'un résultat ou pas attendu, ils vont tous être différents, mais la personne qui s'engage dans la formation, globalement, elle le fait. Après, comme en présentiel, il y en a qui sont peut-être plus engagés que d'autres. Et ça, c'est le travail du formateur que je gérerai. Mais en tant qu'indépendant, si je me focalise sur quelques outils et que je ne m'éparpille pas, ça déjà, ça peut m'aider. Et donc ça, au départ, ça a été un peu la difficulté. Et après, ça a été de me dire, allez, je me concentre sur un. Au départ, je me suis concentré sur Ooclap. Ok. Ensuite, j'ai découvert Worldwall. Quand justement, j'ai voulu commencer à faire du distanciel, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Il y a le côté vraiment un peu ludique du numérique, ludique jeu, quoi, sur cet outil qui fait que quand tu es sur un ordinateur, bah, tu as peut-être plus envie de jouer que juste faire un quiz, quoi. Donc, cet aspect-là que j'ai trouvé très sympa, qui pour moi correspondait vraiment à la partie un peu e-learning asynchrone. Et puis là, je rencontre Geniali où je peux davantage faire un peu plus de choses par moi-même, personnalisées avec des choses, comment dire, assez simple à mettre en œuvre parce que les modèles existent. Et donc, je suis en train de me focaliser sur ces outils pour essayer de les intégrer dans ma pédagogie. Mais oui, ça demande du travail, hein, seul. Mais quand on maîtrise bien effectivement son sujet, après, juste au départ, je pense se concentrer sur certains outils. J'ai peut-être voulu au départ vouloir en faire beaucoup. Même, je voulais faire des vidéos moi-même. J'en ai fait deux. Mais au final, j'ai dit bon. J'en ai fait deux, c'est suffisant. Pour l'instant, j'en ferai d'autres plus tard, mais je ne vais pas tout faire tout de suite. C'est-à-dire aussi, quelque part, pour moi, j'allais dire l'humilité de me dire, OK, j'y vais pas à pas. Il y a des choses, des vidéos, il y en a qui, ça existe sur YouTube, on en trouve des très bonnes. Ben, je peux les intégrer au LMS, pourquoi pas, si besoin, et je n'ai pas besoin d'aller les refaire. Peut-être un jour, je les referai, mais chaque chose en son temps. Et du coup, et après, c'est oser. Enfin, sincèrement, en distanciel, c'était un peu comme des fois, je dirais, je pourrais comparer un peu avec les réseaux sociaux. Tu sais, la crainte de d'écrire sur les réseaux pour oser de se dire, bah, est-ce que ce que je vais dire va être intéressant? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va? Et finalement, je trouve, chez moi, ça a créé un peu la même chose de le distanciel, c'est oser lancer le distanciel. Donc, j'y vais petit à petit, mais j'ose.
Oui, et puis en plus, c'est ça, c'est comme là, ce podcast, hein, on essaye, c'est du work in progress, c'est imparfait et on l'améliore, mais tant que tu n'as rien lancé, que tu n'as rien testé, tu ne peux pas savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, donc,
Exactement.
notamment avec tes apprenants. Et alors, maintenant, l'étape suivante, c'est de la faire connaître et de la
Oui.
vendre. Il y a un enjeu quand même business, il nous reste quelques minutes et ça peut être intéressant si, comme tu es chef d'entreprise, alors tu n'as pas de salarié, mais quand même tu as des enjeux business. Est-ce que tu as un plan en tête et c'est quoi un peu tes objectifs pour cette année sur cette formation?
Alors c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, je me suis pas encore mis d'objectif sur cette formation. C'est-à-dire que je vis avec toutes mes autres formations et celle-là, je me mets pas de pression dessus. Par contre, de la faire connaître. Donc, par exemple, rien que d'en parler avec toi aujourd'hui, c'est un moyen justement de pouvoir aussi la faire connaître. Et ça va être sur les réseaux. Ce que je prévois, c'est de pouvoir commencer vraiment à communiquer dessus, parce que j'ai envie de peaufiner deux trois choses par rapport au test que j'ai fait. Mais j'ai envie de pouvoir commencer à communiquer dessus à partir de mai. Juin sans doute un peu plus et ensuite de communiquer davantage sur les réseaux quoi. En fait ça va être vraiment pour moi là sur le distanciel je suis tout seul je mise sur LinkedIn quoi c'est le réseau social sur lequel je suis après je vais comme sur mes autres formations ça va être le bouche à oreille je me suis pas mis de pression parce que vraiment en étant seul si je me mettais une pression ça serait enfin la pression je la supporte quand il n'y a pas d'enjeu de sécurité financière. Pas de problème quand c'est de la pression pour être créatif, ok. Pression, la sécurité financière, non. Justement, j'ai ma sécurité financière, je peux me permettre de la lancer progressivement, d'en parler petit à petit. Et c'est ça. Et je fais confiance aujourd'hui en fait à LinkedIn, le réseau, pour avoir, même si j'ai une session où il y a 2-3 personnes, je la ferai. À chaque fois pour moi, c'est une occasion de pouvoir tester, m'améliorer, enrichir et d'avoir des personnes qui vont parler de cette session. La difficulté quand on est indépendant, je trouve, c'est ces sessions inter-entreprise, c'est-à-dire ouvertes à tout le monde, c'est de les faire connaître. Même en présentiel, c'est assez dur de remplir une session inter-entreprise. Et finalement, je me rends compte que c'est le temps qui est mon meilleur allié. C'est-à-dire, j'ai commencé mes sessions inter-entreprise, moi, il y a 2, 3 ans. Ben, j'ai fait des formations où j'avais que deux stagiaires. Et ben maintenant, ça y est, cette année-là, dans 2 semaines, j'ai une session et on va être à 5 ou 6 stagiaires. Et pour moi, je m'étais fixé un groupe de 6 vu la taille de la salle et confortable. Et j'aime bien les petits groupes parce que ça favorise pour moi les apprentissages aussi. Et donc, je vais quasiment être complet. Donc voilà, il faut le temps et je laisse le temps en fait faire aussi son œuvre, quoi. Mais je communique.
Oui, voilà, tu t'es pas dit, il faut absolument qu'en septembre, j'ai une session avec 30 apprenants. Donc, effectivement, tu pourras la faire connaître petit à petit. Et puis, peut-être que dans un an, on en reparlera et tu nous diras, bah, écoute, ouais, ça a été un succès. Ou au contraire, bah, finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais je pense que quand on est OF, indépendant ou pas d'ailleurs, hein, les imprévus, tu en as à peu près tous les mois, voire même tous les jours.
Oui, il y en a régulièrement. On n'a qu'à parler juste de la semaine dernière à Paris où en fait, hop, une session de formation à Paris reportée du fait du contexte actuel. Donc oui, il y en a régulièrement.
En tout cas, ce qu'on pourra peut-être imaginer, notamment sur la communauté, c'est vous êtes, je pense, un certain nombre aujourd'hui à proposer des formations de formateurs avec des nouveaux formats comme ça en distanciel. Je pense notamment à Laura, si elle nous écoute. Peut-être faire un atelier pour qu'on puisse avoir un aperçu de ce que ça peut donner.
Carrément.
Et effectivement, donner aussi envie à des formateurs qui n'ont pas encore eu accès à cette formation de la faire cette année ou l'année prochaine. Peut-être qu'un jour elle sera rendue obligatoire, je ne sais pas. mais en tout cas, on garde le lien et puis on se donne rendez-vous rapidement pour en reparler. Merci en tout cas pour ce temps d'échange, Gwenaëlle, et puis bonne fin de semaine. T'as prévu quoi là cette fin de semaine ?
Merci. J'ai prévu quoi cette fin de semaine ? Voilà, ça va être à partir de cet après-midi, week-end, repos.
Ok, ça marche. Mais en Bretagne, donc ça va, en pleine nature. Merci à toi, Gwenaëlle. À bientôt. Au revoir.